Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les cris du silence, deuxième partie.
Donner une suite à notre message, notre méditation d'il y a une quinzaine de jours, et nous avions intitulé naturellement notre réflexion « Les cris du silence ». Alors vous avez certainement gardé en mémoire tout le message. Quoi qu'il en soit, eh bien on va reprendre quelques éléments de ce texte que nous avons médité, mais avant d'ouvrir votre Bible, j'aimerais, dans le passage que nous avions précédemment entrevu, vous donner une traduction de ce même passage. C'était le psaume 27, le verset 10, hein, où il était question tout simplement « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Et dans mes recherches pour cette fois-ci, j'ai voulu voir un peu la traduction hébraïque, hein, traduction du rabbin tout simplement Zadok Khan, vous ne le connaissez pas moi non plus, mais toujours est-il que ça doit être un érudit dans la pensée de littéraire, hein, littérale. Et voilà ce que je dis, on va retrouver un peu les mêmes éléments, mais je voulais vous le dire parce que vous allez voir, il y a quand même quelque chose qui va nous introduire dans notre nouvelle réflexion aujourd'hui. Alors, il est dit ceci dans la traduction hébraïque, « Tu es mon soutien, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car père et mère m'ont laissé là. Mais l'Éternel me recueillera. Père et mère m'ont laissé là. » Constatation douloureuse d'un enfant qui se trouve finalement sur le bord de la route avec ses valises et qui ne sait plus où aller. Qui se trouve en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Et la suite de ce psaume nous dit ceci, c'est une prière d'espoir de David. « Ah, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, et avec cette exhortation dans laquelle nous allons rentrer maintenant, espère en l'Éternel, courage, que ton cœur soit ferme. » Oui, espère en l'Éternel. Alors voilà, donc, me suis permis de chercher un petit peu, là, jusqu'aux origines, et c'est intéressant de prendre toute la mesure de cette détresse où on est laissé là, tout simplement, avec notre peine et notre souffrance. Et en reprenant maintenant le fil de notre méditation, je voudrais dire qu'après les temps de souffrance et de déchirure, mon père et ma mère m'abandonnent, voici le temps de la restauration que nous appellerons, que nous nommerons ce matin, l'adoption divine. Vous savez que c'est une doctrine dans la Bible. La doctrine de l'adoption. L'adoption divine qui est naturellement dans le même texte, mais l'Éternel me recueillera. On va expliquer les mots. Hein. Être recueilli, qu'est-ce que cela signifie? Être recueilli par Dieu, c'est quelque chose. La douleur des enfants de la séparation trouve réponse et consolation dans les affirmations de la parole de Dieu, et j'insiste. Parce que ce matin, on va bien marquer le fait que Dieu nous parle à travers sa parole. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une théologie humaine, mais à travers ce que Dieu nous dit dans sa parole. Parce que dans sa parole, nous trouvons ce que nous ne trouvons pas ailleurs, l'enracinement, la certitude, l'assurance, le bannissement du doute, des craintes, des peurs. Donc, je dis bien, réponse et consolation dans le message de la parole de Dieu. Et j'aimerais faire un rappel de quelques promesses, comme nous l'avons fait la fois précédente, parce que c'est important. Contre le rejet et l'oubli, père et mère m'ont laissé là. Tout simplement. Dans Ésaïe, on avait cité le texte 49 et au verset 15, il est dit ceci. Si une mère qui allait de son enfant venait à l'oublier, Dieu répond, moi je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Il est encore question dans les promesses divines qui nous font du bien de la fidélité indéfectible de Dieu. Et ce texte, vous le connaissez particulièrement parce que nous l'avons dans l'évangile de Jean. Je vais le citer parce que je crois qu'il mérite que nous tournions quelques pages. Dans Jean, au chapitre 14, versets 17 à 18, il est dit ceci, vous en souviendrez, ce qui montre toute la force de la parole et des promesses. Il est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'intimité, la proximité, le rapprochement. Et écoutez la suite. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est Jésus qui parle comme ça. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et l'espoir est là. L'espoir le plus grand est pour tous ceux et celles qui ont souffert, qui souffrent encore, qui portent un fardeau, qui sont encore aux prises avec le syndrome de l'abandon, du délaissement. Eh bien, cette promesse, elle vient de la bouche même de Jésus. Certes, assurément, affirmativement, je ne vous laisserai pas dans l'état où vous êtes, je ne vous laisserai pas orphelin, mais moi je vais venir à vous. Et ce matin, on va laisser le Seigneur venir à nous, venir dans nos cœurs, nous parler, nous consoler, nous apporter ce qui est le plus important, cette foi qui nous rend agréable à Dieu. Vous savez, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc c'est ça ce que nous avons besoin. Et on va construire ensemble. Mais il y a naturellement aussi cette parole. Et là, nous allons la lire. Et ce sera le sujet, ce sera la base de notre réflexion dans Romains. Alors on va prendre Romains, chapitre 8, verset 15. Et nous avons véritablement cette intention, ce désir ardent de Dieu de nous prendre, de venir à nous et de nous prendre avec lui. Romains 8, verset 15. Écoutez bien et comprenez bien. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore, c'est important, encore, dans la crainte. Mais vous avez reçu, il nous a été donné, un esprit d'adoption, esprit avec un grand E, un esprit d'adoption par lequel nous crions, et je vais l'expliquer d'ici quelques instants, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants, enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et là, vous avez toute la perspective de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, et particulièrement avec ceux qui portent une souffrance, comme nous l'avons expliqué par le détail la fois dernière. Je relis ceci. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Ce ne sont plus des cris de douleur, de peine, de désespoir, mais ce sont des cris de joie, d'allégresse. Nous tressaillons de joie au fond de notre cœur et nous disons tout simplement « Abba, Père ». Vous connaissez l'expression ? Elle est trois fois dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Marc, au moment où Jésus est sur la croix, « Abba, Père, que cette coupe s'éloigne de moi ». Nous l'avons dans Romains et nous le retrouverons tout à l'heure dans Galates. « Abba, Père ». Vous savez quelle langue Jésus parlait ? Il parlait l'araméen. Or, « Abba », c'est de l'araméen, langue morte, aujourd'hui. Mais ça exprime quelque chose de particulier. C'est l'expression des sentiments les plus intimes. Le Consolateur, je viendrai en vous. Il ne sera pas avec vous, il sera en vous. Donc l'expression des sentiments les plus intimes et des plus affectueux, semblable au balbutiement d'un enfant à l'égard de son père, ce qui lui fait dire, papa. Abba père, papa. On n'appelle pas tout le monde papa. Et je crois que là, nous touchons véritablement les choses les plus profondes, les plus grandes, les plus mystérieuses. De pouvoir dire à un homme, et de pouvoir dire à une femme, papa, maman, c'est exclusif. C'est quelque chose de magnifique. Quand nous parlons de nos parents, quand je parle à mes parents, quand je parlais à mes parents, je disais papa, maman. Et pour Dieu, eh bien, la signification, nous la retrouvons là. Abba, Père. L'esprit qui est en nous, nous donne de dire, non pas mon Dieu perdu dans l'immensité du firmament, de l'univers. C'est mon Père. Père. C'est un beau nom, Père. Quelque chose de très beau. Alors revenons à « Mais l'Éternel me recueillera », puisque c'est la deuxième partie. Recueillir du latin « recolligere », qui veut dire « rassembler ». Réunir, ou encore, si vous voulez, j'ai étendu l'analyse, « faire accueil », les bras ouverts, « faire accueil ». Ce qui est dispersé pour le prendre, c'est recevoir, et une belle et dernière pensée de l'explication de ce nom, c'est tout simplement faire donner refuge. Donner refuge parce que le mot refuge est en lui en soi, eh bien, quelque part, quelque chose qui nous inspire que nous étions peut-être perdus ou en danger, égarés, et que nous sommes dans un endroit en sécurité. C'est important la sécurité pour les hommes. C'est important pour notre vie morale, notre vie de chrétien. Il y a une très belle promesse parce que ça s'accorde aussi avec une notion qui est la notion du pardon. Cette autre promesse, nous la trouvons dans Malachi ou Malachi, comme vous voudrez, vous ferez la prononciation à votre goût. Mais écoutez ce qu'il nous est dit. Ce sont finalement les dernières paroles de l'Ancien Testament, c'est-à-dire, hein, on connaît les premières dans Genèse et les dernières de l'Ancien Testament. C'est quoi? Écoutez, Malachi chapitre 4. Verset 6, et c'est une belle promesse que Dieu nous donne. Une belle promesse. Il est dit ceci, Dieu, l'Éternel, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Après, il y est dit, s'il y a des faux, eh bien, vous pourrez lire la suite. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette parole. Ce retour du cœur des pères à l'égard de leurs enfants, et vice-versa, puisqu'il doit y avoir une réciprocité, mais une réciprocité qui est faite d'inimitié, de mésentente, de querelle, de refus. Mais c'est Dieu, c'est divin. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, le pardon est divin. Ouais, le pardon est divin. Le pardon, il découle de Golgotha, il découle de Jésus-Christ. Ce n'est pas une invention humaine. Alors, c'est une notion de pardon qui nous est donnée dans le livre de Malachie du prophète, qui crée le retour possible des uns vers les autres. Et on va le transporter tout à l'heure, eh bien, de ce retour de l'homme vers son Dieu, de Dieu vers l'homme, mais aussi sur le plan, eh bien, tout simplement horizontal, et on comprend naturellement le sens. Parce qu'il y a là une notion de réconciliation. Comme si la vie, les erreurs, le mal, le péché, la mésentente et tout le reste qui existe et qui est là autour de nous dans notre monde, comme s'il y avait besoin justement qu'il y ait la réconciliation et il y ait la réparation. Réconcilier, c'est bien, mais il faut qu'il y ait aussi réparation. Et tout ça, ça peut se faire que sur un pivot que l'on appelle le pardon. Ce n'est pas possible autrement. Cependant, le Dieu compatissant va encore plus loin. On se souvient de Jésus dans ce qui est communément appelé la prière universelle, et vous savez comment elle commence, nous apprend à dire notre Père. Il semblerait que ce soit une prière à caractère collectif, parce que ce n'est pas mon Père, mais vous pouvez dire le Notre Père, mon Père. Mon Père qui est aux cieux, pourquoi pas. Mais notre Père, par défaut d'avoir eu, par défaut de ne plus avoir, ou de ne pas avoir de Père, de parents sur la terre. Parce que les choses sont dites, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire que c'est plus haut. C'est plus seulement à la dimension horizontale, mais c'est la dimension verticale. Pour tous ceux qui, et je le rappelle, par défaut d'avoir eu plus ou pas de père ou de parents sur la terre. Mais nous avons quelqu'un dans le ciel. Il n'est pas vide, le ciel. Celui qui habite dans le ciel pense à ses enfants. Il pense certes à ses créatures. Et pour elles, il leur a destiné un plan de salut. Mais pour ses enfants, le plan de salut est là. Il est effectif. Notre Père qui est aux cieux. Ceci dit, c'était pour bâtir un peu la suite, ceci dit, introduisons une notion qui n'est pas une notion légaliste, qui n'est pas une notion de loi, parce que la loi ne rentre pas dans la conception de l'adoption, mais une notion de grâce et de faveur que Dieu, qui est notre Père, adresse à tous, et en particulier à ceux et à celles sensibilisés par les drames de la rupture familiale. Nous revenons à ce que nous disions la fois précédente. Et ce plan-là s'appelle tout simplement l'adoption. Traduisez-le si vous voulez faire une extension de la signification. Traduisez-le par tout simplement prendre avec. Ouais. On a tous une notion très vague peut-être de ce qu'est une adoption. Adoption plénière. Ça se fait. Il y a, c'est vrai, derrière, autour de cette question, une grande détresse, pour la bonne raison que des parents cherchent des enfants, des enfants cherchent des parents, avec toutes les complexités que cela peut avoir. Mais on ne se livre pas à ce genre de procédure comme cela, par fantaisie, tout simplement parce que on se dit, ça serait bien, c'est un bel acte d'altruisme. Non, c'est pas ça, il y a de l'amour dedans. Quoi qu'il en soit, même chez les hommes. Alors, l'Éternel me recueillera. On pourrait le traduire de cette manière. On reste toujours sur la parole de David. Cette promesse s'entend dans le sens que Dieu nous aime. Rien dans l'univers n'est, ne peut, s'il n'y a pas l'amour de Dieu. Et que la nature même de son amour, la nature même de l'amour de ce Père qui est dans les cieux, c'est la fidélité. Ah, qu'est-ce que ça change avec le régime des hommes, avec le régime de la terre? La fidélité, c'est une prérogative divine. Ça fait partie de la personnalité, de la personne même de Dieu. La fidélité avec ce qu'il en découle et de ce que nous les hommes, nous avons besoin de savoir qu'il est fidèle. Parce que cette fidélité de Dieu va nous apporter ce que nous n'avons peut-être pas eu dans toutes ces détresses dont nous parlons, d'abandon, de délaissement, c'est la sécurité. Ouais. Un enfant qui est élevé entre deux parents unis, deux parents qui s'aiment, il ne va pas se poser la question. Il est en sécurité, il est à l'aise, il est libre. Il est joyeux, il est heureux, parce qu'il sait que ce Dieu, enfin l'enfant de Dieu, il sait que son Père est fidèle. Et nous trouvons aussi cette sécurité, cette paix, cet apaisement à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour les petits-enfants ou les enfants, c'est la même chose. Et vous savez pourquoi je parle de la fidélité? Parce que tout cela, c'est Dieu, c'est Jésus qui l'a dit. Et vous connaissez cette parole de Jean dans son évangile? Il est dit ceci pour tous ceux qui deviendraient ses disciples ou les enfants de Dieu, nul ne les ravira de ma main. Et il en porte, il en prend la garantie absolue, nul ne les retirera de ma main. Si nous voulons nous retirer, oui, nous, mais pas lui. Je vous ai parlé qu'on affirmerait la parole ce matin. Parce que la guérison, la libération, la consolation, la sécurisation passe par l'affirmation de cette parole. Nul ne les ravira de ma main. Or, c'est bien cette pensée dans la fidélité de notre Dieu, de notre Père, qui est le gage de notre confiance et de notre guérison. Il ne peut pas y avoir de confiance s'il n'y a pas à la base cette fidélité, et cette fidélité va nous amener la sécurité, et c'est comme ça que nous allons guérir. Nous allons guérir de nos blessures, nous allons guérir de nos piétinements, de tout ce qui nous a fait tant souffrir. Surtout quand on sait que la désunion, c'est l'instabilité et l'errance. Eh oui, je le prends maintenant dans son sens contraire. Regardez le monde. Regardons les hommes. Considérons les familles, considérons les couples. Quelle instabilité chez les enfants. Et cette errance. On se plaint parce qu'il y a des enfants dans la rue, mais... Oui. C'est parce qu'ici, ils sont dans la rue, c'est qu'ils ne sont pas bien chez eux. C'est probable. Vous savez, on peut comprendre lorsque l'on voit les choses aller comme elles sont, comme elles vont. Alors, j'affirme encore une fois de plus, c'est qu'on peut donc compter sur lui avec ce que je dirais ce père-là. Ce père-là, on ne connaîtra jamais le rejet, la trahison, l'éviction, la mise à l'écart ou tout simplement l'abandon. Et je cite tout à nouveau le psaume 49, quand il est dit ceci, « Eh bien quand même, une mère oublierait l'enfant qu'elle allaite, Dieu répond et nous répond, moi je ne t'oublierai pas. » Et il y a un verset qui suit tout cela, et il dira pour montrer cette fidélité à toute épreuve, « Je t'ai gravé sur mes mains. » Et vous savez à quel prix ? Parce que ça nous transpose, ça nous transporte tout simplement au pied de Golgotha où nous voyons les mains percées de Jésus avec des clous. Lui, il était retenu sur une croix. Nous, il veut nous retenir au cœur de ses mains qui ont souffert pour nous, pour que nous puissions être au bon endroit et que nous puissions véritablement trouver la véritable vie. Ouais. Nul ne les ravira de ma main. Les mains percées de Jésus sur la croix, il nous prend, il nous serre. Et il nous dit, personne ne te touchera. Quel est le voleur? Quel est l'ennemi qui aurait l'audace de te retirer de mes mains? Et les mains, c'est le cœur aussi. C'est le cœur. La doctrine biblique de l'adoption a un sens général au regard de notre salut. Ça, c'est la doctrine que nous connaissons, que nous trouvons. Parfois pas toujours facile à comprendre, mais on va essayer de la comprendre ce matin. Cette doctrine de l'adoption divine, c'est tout simplement parce que nous étions perdus, nous sommes sauvés, nous étions égarés, nous avons été retrouvés, nous étions abandonnés à nous-mêmes, mais le Seigneur a rassemblé finalement son troupeau, ses brebis dont nous sommes. Et lui, il est le bon berger. Et il nous a recueillis, il nous a adoptés. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous êtes aujourd'hui? Nous appartenons au Seigneur. Oui ou non? Nous sommes à lui. Je dirais que par effet contraire, il est à nous. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. À moi, c'est le possessif. Et il me possède quelque part, dans un autre sens, dans le même sens d'ailleurs. Néanmoins, j'aimerais que nous considérions la doctrine générale de l'adoption sous l'angle de notre propos. Nous allons rester dans notre propos de souffrance par rapport à, les cris du silence. Tous les enfants au cœur brisé, quel que soit leur âge, on en a parlé, je ne reviens pas sur ce que nous avons dit la semaine dernière, par l'éclatement de leur foyer, comprenons que les cris dans le silence, les cris du silence, mais je dis maintenant les cris dans le silence, ça représente toutes les prières entendues de leur Père Céleste qui est dans les cieux. Moi, je crois qu'il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes adultes, des hommes et des femmes qui crient dans le silence en disant « Mais Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi mon père et ma mère m'ont-ils laissé là? Pourquoi, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, avec l'échec scolaire, avec la délinquance, avec toutes ces souffrances, avec peut-être de la peine, une peine immense de ne pouvoir avoir un modèle, un exemple, et d'avoir une grande difficulté à dire « mais est-ce que je suis encore capable de me marier aujourd'hui ? Est-ce que je suis capable de fonder un foyer ? Est-ce que je peux encore aimer ? Est-ce que je peux être aimé ? Pourquoi mes parents m'ont-ils laissé là ?» Alors, ça, ce sont les cris dans le silence. On l'a expliqué la semaine dernière, j'y reviens brièvement. Eh bien, ce sont les prières entendues. Les hommes n'ont pas entendu ces prières parce qu'on est pudique et on ne veut pas parler de cela. Ça fait honte de dire, voilà, ma famille. L'Éternel, écoutez bien cette parole, elle vient de Léa. Vous connaissez Léa ? Dans le livre de la Genèse. Femme de Jacob. Très bien. Vous savez ce qu'elle dit ? Écoutez bien. L'Éternel a vu mon humiliation. Il a entendu, et c'est terrible, il a entendu et il a vu que je n'étais pas aimé. Alors, c'est sûr que ça peut amener des protestations de tous les parents disant, mais pour les parents qui ont eu un échec, et je ne suis pas là pour juger, mais qui pourront toujours dire, mais je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie. Oui, mais ce que les enfants attendent, c'est ça bien sûr, mais ils l'attendent de deux voix, pas à une voix. C'est pas en solo. C'est en duo. Et ça, vous ne le remplacerez jamais. Et Léa dit, l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Le mot adoption, dans son étymologie, se traduit par, c'est intéressant, établir un fils, ou au féminin, si vous voulez, établir une fille. Et son dérivé, que nous connaissons bien, fils adoptif, fille adoptive. J'aimerais rappeler quelques principes de l'adoption, de notre adoption, qui vaut pour toute guérison dans toutes les blessures que nous avons reçues. Et c'est là où nous allons intervenir dans notre deuxième texte après Romains sur la doctrine de l'adoption. C'est dans Galates, hein, au chapitre tout simplement 4, Galates, chapitre 4, versets 4 à 7, par exemple. Mais lorsque les temps ont été accomplis, il y a toujours un temps qui s'accomplit à un moment ou un autre, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà. L'aboutissement du sacrifice de Jésus, le tout accompli, a atteint son but, c'est que nous soyons adoptés. Et l'explication est parce que vous êtes fils. Oui, nous le sommes. Hein. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, comme dans Romains, tu es aussi héritier, mais cela par la grâce de Dieu. C'est pas toi. Hein. C'est pas en raison de ce que tu es, c'est en raison de ce que je suis, moi, dit Dieu, ton Père. » Alors c'est un très très beau texte. Il est magnifique parce que il trace finalement eh bien, la perspective pour chacun d'entre nous. On sait que nous avons reçu l'adoption. Ce n'est pas quelque chose que nous avons acquis. Hein. Nous l'avons reçu. Et parce que, justement, je me considère, parce que nous nous considérons, parce que mon ami qui est dans cette salle ou ailleurs, parce que, véritablement, tu crois en Jésus, tu crois en Christ qui a été donné pour toi, alors tu peux te dire déjà, d'ores et déjà, tu es fils et fille. Et Dieu met dans ton cœur, en cet instant, au moment où tu entends cette parole, Dieu met dans ton cœur. Il te le rappelle en tous les cas que l'esprit de ce Fils, l'esprit de Christ en qui tu crois, eh bien, crie en toi-même, « Abba, Père !»« Abba, Père !» Alors, tu n'es plus esclave. Tu es maintenant un fils. Est-ce que nous sommes convaincus, parce que ça passera par cela, la guérison, hein ? La reconstruction de notre être, la reconstruction de notre vie morale, de notre vie psychologique, dans notre vie sentimentale, affective, elle passera par là. C'est parce que je prends bien les choses, je comprends bien les choses. L'Esprit de Dieu me les fait comprendre. Il me donne de les saisir. Et à ce moment-là, je ne suis plus un étranger. Je suis réellement un fils et une fille. Et l'unique moyen d'accéder à cette grâce, c'est la foi en Jésus-Christ. Je n'ai rien à donner, je n'ai rien à faire. Ce n'est pas parce que je mériterai ceci ou je ferai des prouesses d'une manière ou d'une autre. C'est tout simplement, c'est ma foi en Christ. Dieu a envoyé dans nos cœurs, je le rappelle, l'Esprit de son Fils. Est-ce que l'Esprit de Christ à l'intérieur vous dites, mais tu es fils et tu es un père dans le ciel. Moi, je me sens fils. Oui. Vraiment, je me sens fils. Je vous sens mes frères et mes sœurs. Je ne sais pas si vous me renvoyez l'appareil. Hein? Mais c'est comme ça que je le ressens. Je ne suis pas un étranger. Alors, ainsi, Dieu te dit, arrête de crainte, arrête de peur, malgré tout ce que tu peux avoir d'endolori au fond de ton cœur. Toutes les cassures, toutes les meurtrissures, les déchirures, le piétinement, le pilonnement de toute ton existence, peut-être où tu as souffert, à travers ces circonstances où tu n'as peut-être pas eu de père ou de mère. Mais Dieu te dit, mais tu n'es plus esclave. Aujourd'hui, vous n'êtes plus esclave, si vous le voulez. Et la grande difficulté pour les esclaves, quand ils ont été affranchis par Abraham Lincoln aux États-Unis, dans le pays des Confédérés, enfin le pays du Sud, c'est que finalement, on venait leur annoncer avec un édit d'affranchissement, on leur disait, vous êtes libres. Ils se disaient, ah ben non, on ne croit pas qu'on est libre encore. Et voilà, il fallait signer l'édit, il fallait signer le contrat. Ils ne croyaient pas parce qu'ils ont été prisonniers pendant des siècles et des siècles. Et les Hébreux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'arrivent même pas encore à comprendre qu'ils étaient libres. Nous sommes libres. Alors, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus orphelins, nous ne sommes plus des délaissés, nous ne sommes pas à la rue, et nous ne sommes plus tout seuls ou tout seuls, eux, mais nous sommes fils. Et Dieu vous demande ce matin de le croire de tout votre cœur. Le Saint-Esprit est là par la parole pour vous dire, eh bien, amen Seigneur, je le crois, je le saisis. Notre Père a pris en main notre destinée au passé douloureux. Et je rappelle ce que j'ai dit dernièrement, c'est que les blessures demeurent dans notre vie. Mais ça ne nous fait plus souffrir. C'est la preuve que Dieu nous a guéris et que Dieu est en train de nous guérir. On peut toujours y penser, à notre petite enfance, à nos va-et-vient de droite et de gauche qui nous ont fait tellement souffrir, perdre nos repères, notre marque, notre lieu. On s'en souviendra toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Mais ça ne nous fait plus souffrir. La preuve que la main de Dieu est venue là. Vous savez, cette main, je t'ai gravé sur mes mains. Il a pris la responsabilité, notre Père a pris la responsabilité de tout ce qui désormais va lui coûter. C'est quand on fait venir un enfant, quand on prend un enfant dans une maison adoptée, il y a du remue-ménage. Hein. Ouais, tout ce que ça va lui coûter. Il sait à l'avance des ennuis que nous pouvons lui procurer. Mais Dieu est Dieu. Et vous savez qu'il n'a pas qu'un fils adoptique, hein. La famille est nombreuse. Et pour qu'elle soit de plus en plus nombreuse, que le monde entier devienne des fils et des filles adoptifs de Dieu. Ouais. Pas seulement des créatures, mais des fils et des filles. Sachons-le, ce n'est pas tant pour lui que Dieu fait les choses, mais c'est pour nous. Vous connaissez, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Et vous connaissez la suite. Il n'est pas question de la mort. Il est question d'éteindre la mort pour nous donner la vie. Voilà. Donc c'est pour nous. Par amour, et est-ce que nous le croyons encore? Est-ce que nous pouvons l'espérer? Est-ce que nous pouvons encore finalement le concevoir pour que nous soyons heureux? Tout le monde veut être heureux. Ben oui. Mais est-ce que nous voulons vraiment être heureux? Et Dieu nous fait la proposition ce matin, eh bien j'ai un plan pour toi. Il est l'unique, il est le plus grand, il est le plus beau. Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux être heureuse? Alors viens. Viens, rentre à la maison. Approche-toi de moi. J'ai tout fait pour toi. J'ai tout préparé pour toi. Ce Père adoptif que nous avons dans le ciel, eh bien, il a payé le prix de notre adoption. Vous savez que ça coûte très cher, hein? Vous connaissez, hein? Dans les deux cas, ça coûte cher, sur la terre et dans le ciel. Ça coûtait la croix. Vous savez qu'il a signé les papiers? Parce que Dieu sait écrire. Hein? Ah oui. Il nous a donné son nom. Parce que quand on rentre dans une maison, on prend le nom. Moi, je connais des familles chrétiennes qui ont adopté des enfants, ils s'appellent maintenant. Voilà, tout simplement, adoption plénière. Il nous a amenés chez lui et il nous a accordé le droit magnifique de lui dire « Abba, Père, Papa ». Moi, j'aime pas trop personnellement dire à mon Dieu « Papa », parce que ça fait un peu enfantin et tout ça, mais je comprends qu'il peut y avoir cette conception. « Abba, Père ». Et nous obtenons à ce moment-là la place et les droits de fils et de filles dans la famille. Nous sommes désormais plus jamais seuls au monde. Nous avons, eh bien là, une maison, nous avons une famille, nous avons un foyer, et nous sommes chez nous. Vous êtes bien chez vous ? Et on est encore mieux dans la maison de notre Père. Hein ? Ouais. Alors, on a deux domiciles. Il y en a un où on paye finalement la taxe locale, je vous le rappelle. C'est fait. Hein. Et puis l'autre, c'est gratuit. Tout est gratuit de l'autre côté. Ouais, tout est gratuit. On peut faire à volonté, en pleine liberté, parce que c'est un autre monde. Nous sommes, je suis chez moi. Écoutez, il y a une parole, comment dire, pathétique, je ne sais pas si c'est le mot, mais elle est d'une extrême beauté. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62 et au verset 4. Écoutez bien. Ça, c'est pour me dire que je suis chez lui. Que je suis chez moi, pardon, chez lui. Ben, c'est même plus chez lui, c'est chez moi. Enfin, nous sommes ensemble. Alors, écoutez bien. Ésaïe 62, 4. C'est beau, hein. « On ne te nommera plus la délaissée. » Vous connaissez ça, hein. On ne nommera plus ta terre désolation, ta vie désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Vous rendez compte que Dieu dit mon plaisir est dans celui-ci ou dans celle-là ? C'est ma fille, c'est mon fils. Et un père, il est fier toujours de son fils et de sa vie, n'est-ce pas ? On les trouve toujours beaux, nos enfants, hein ? Eh oui, ils sont à nous. Eh oui, ils sont à nous. Alors, mon plaisir en elle, et l'on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme, alors ça c'est très, très tendre, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Mes frères et sœurs, si nous croyons à cette adoption, nous ferons et nous faisons la joie de notre Père qui est dans les ciels. Je ne parle pas un langage étrange, hein. C'est quelque chose que l'on peut comprendre les uns et les autres, forcément. Alors naturellement, devant cela, puisque je suis chez moi, je suis dans ma maison, je suis dans ma famille, il y a des questions qui peuvent me venir et qui sont susurrées peut-être d'ailleurs, de mon ancienne vie, de tout ce brouhaha, de tout ce tohu-bohu ancien, et peut-être même l'ennemi vient encore me dire « mais dis donc, hein, t'es sûr ? T'es sûr ? Dieu aurait-il réellement dit parole, parole épouvantable qui vient des ténèbres ? Comment puis-je être aimé ? Comment retrouver le sens de l'amour ? Comment ? Comment croire à nouveau aux valeurs de l'affection, de la tendresse ? Alors en voici la preuve. En voici la preuve. Voici les privilèges d'un fils adoptif et d'une fille. Et là, il s'agit tout simplement d'une transposition d'état. Excusez-moi, je vais m'expliquer. Transposition d'état. Avant, je fonctionnais humainement parlant, charnellement parlant. Je fonctionnais avec tous les rudiments du monde qui m'environnait, imprégné. On ne peut pas faire autrement, on est né dans ce monde. Et on est, malgré tout, plongé, encore imbibé de ce monde. Alors, je fonctionnais avec... Ça faisait mal de tous les côtés. J'avais mal ici, j'avais mal là, et ceci et cela. Tout me faisait mal, moralement, physiquement, tout me faisait mal. Les craintes, les peurs, toutes sortes de choses. Mais maintenant que je suis dans la maison, je suis chez moi, il y a une transposition d'état. C'était mon état avant, j'étais perdu, égaré, dans mes pleurs et dans mes larmes. Maintenant je suis dans la joie, je me réjouis, et je sais que de l'autre côté, eh bien, ma vie fait la joie de mon Père céleste, de mon Père adoptif. Alors c'est une transposition, je le répète pour la troisième fois, transposition d'état, tout simplement, et ça repose sur une chose, ça revient à ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est de lui faire confiance. C'est uniquement la confiance. Et quand j'ai confiance, je ne me pose même pas de questions. Et je n'ai même pas à me poser de questions ou tout simplement à supputer quelque chose, qu'il pourrait y avoir une défaillance quelque part, puisque mon Dieu est mon Dieu, il est saint. Il est vrai. Il est juste. À la différence, certainement, de meilleur de tous les hommes. Je lui fais confiance. Et quand on fait confiance, on n'a pas de doute. Alors, dans la maison de mon père, je dirais dans ma maison et dans la maison de mon père, tout y est à moi. Je m'y comporte parce que je suis chez moi. On a quelquefois l'habitude de dire aux gens que nous invitons, vous prenez le manteau quand ils arrivent, faites comme chez vous. Et on se dit pourvu qu'ils ne font pas comme chez eux. Avec certains, vous pouvez entièrement faire confiance, mais avec d'autres, je ne vous dis pas. S'ils veulent tondre le jardin et tout ça, ça va vous soulager. Mais enfin, ils peuvent tondre autre chose. C'est possible. C'est ça, cette transformation, cette transposition d'état. Je suis, et je crois que je suis vraiment chez moi. Et vous vous souviendrez naturellement de l'histoire du fils que je nommerai l'aîné, qui doute par obstination et fierté, et pourtant son père vient vers lui. Il lui dit, rentre à la maison ton fils qui est revenu. Rentre, on va faire la fête, on va se réjouir. Il était perdu, le voilà retrouvé. Il était mort, le voici, vivant. Et le fils aîné est en train de ronchonner. Il est vraiment très très mécontent. Je vous ai parlé de fierté, je vous parlerai d'orgueil et de ressentiment injustifié. Et son père, son bon père, lui dit ceci. Viens, rentre à la maison. Et lui dit, mais mon enfant, je voudrais te dire quelque chose. Tu es toujours avec moi. Oui, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ce n'est pas à nous, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu met à notre disposition. Est-ce que je me sens bien dans la maison de mon Père Céleste? Est-ce que je me sens bien dans sa présence? Mais tu es toujours avec moi. Alors, tu peux jouir de tout. Tout ce que j'ai, eh bien c'est à toi. Alors profites-en. Mes frères, profitons de la grâce de Dieu. Profitons des richesses de Dieu, profitons de la bonté de Dieu, de sa compassion, de son amour et de tout, de tout, de tout. Et ne soyons pas comme ce fils aîné en disant, non, je ne rentrerai pas, parce qu'il n'est pas rentré. Hein. Dieu nous invite à rentrer, alors venez, vous qui souffrez dans votre cœur, venez. Près de Dieu, on se sent vraiment chez soi. Moi, j'aime bien les moments quand on se retrouve en prière. Et dans l'introduction, simplement, dans les premiers mots de la prière, de dire « Seigneur, je te bénis parce que je suis bien auprès de toi. Je suis bien et j'ai besoin de prier, j'aspire à prier. » Dans la maison de mon père, dans ma maison, dans la maison de mon père, je suis libre. Eh oui, libéré. Vous savez qu'il nous est parlé dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, de la liberté des enfants de Dieu. Ce n'est pas la liberté lorsque nous étions enfants de... La libération du cœur, or, tant que, notre cœur est en souffrance du passé, est-il vraiment libre? Toujours dans l'inquiétude, toujours avoir peur d'être abandonné, lâché, toutes sortes de choses de ce genre. Est-ce que nous pouvons vraiment être libres? Et dans la maison de mon père, eh bien, je suis libre. D'ailleurs, c'est Jésus qui, en annonçant l'évangile, les prémices de la prédication évangélique commencera par cela à Nazareth, Luc chapitre 4. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Préoccupation principale, première, guérir les cœurs brisés. Et on retourne dans le livre du prophète Ésaïe, où Dieu dira, mais les anciennes souffrances seront oubliées. Merci Seigneur. Je suis libre, mes frères et sœurs. Vous êtes libres dans la maison de votre Père. Vous êtes fils et filles. Je poursuis dans la maison de mon père, dans la maison où je suis chez moi. Parce que je suis fils, j'y reçois la meilleure éducation. Oh, j'ajoute quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'une éducation, mais comme je suis tellement blessé et malade, j'ai besoin d'une rééducation. Il va commencer par là. Il va commencer par là pour apprendre, pour m'apprendre à vivre, sinon voir peut-être quand... La casse a été très longue et catastrophique à revivre. Et il est bien écrit dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur éduque celui qu'il est. Vous êtes sans réaction, là. Aime. Ouais. Dieu éduque et reprend celui qu'il aime. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, avec nos enfants? Quand, quelquefois, ils font des bêtises et que nous sommes obligés d'intervenir, selon le goût, eh bien, à ce moment-là, c'est pas parce que nous ne les aimons pas, c'est parce que nous les aimons. Et il nous est donné la même chose, car le Seigneur éduque celui qu'il aime. C'est comme à des fils, et c'est comme des fils que Dieu vous traite, parce que nous sommes des fils légitimes. Moi, je ne m'occupe pas des enfants des autres. Hein. Je me suis occupé de mes enfants. Accessoirement, quand j'ai les petits à la maison, mes petits-enfants, quelquefois, j'arrive, le grand-père dit quelque chose. Hein. Il faut, hein. Parce que ça... Et puis, on a perdu l'habitude, en plus. Mais c'est parce que ce sont mes petits-enfants. Mais je n'irai pas m'occuper des petits-enfants des voisins. Moi, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. Et c'est parce que, justement, Dieu nous reconnaît comme enfants, et bien, il va faire les choses. Dans la maison de mon père, là où je suis chez moi, j'ai l'assurance de mon adoption pleine et entière. Je n'ai pas à douter. Fini la crainte et l'insécurité. Est-ce que je suis vraiment un fils? Vous savez, c'est terrible, hein, les gens qui sont nés sous X. Ils sont toujours en train de se poser la question, mais qui est mon père, qui est ma mère? Et on a des frères et des sœurs, on a des amis qui sont autour de nous qui disent, mais moi je recherche mon père, moi je recherche ma mère, parce que c'est un besoin, c'est vital pour moi, et ça se comprend. Mais quand on est dans la maison du Père, alors à ce moment-là, eh bien, c'est tout à fait différent. C'est la sécurité. Sa fidélité en est la garantie absolue. Et mes peurs sont bannies par la foi en son amour, parce que je crois en son amour. Dans Éphésiens, en chapitre 3, au verset 10, il est dit ceci. « Nous avons en lui, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Pourquoi encore ces peurs et ces craintes, mes frères et sœurs? Pourquoi ces appréhensions? Est-ce que vous êtes fils ou fille ou vous ne l'êtes pas? C'est notre calage, c'est notre positionnement dans la parole de Dieu. Je crois ou je ne crois pas. Vous savez, la vie chrétienne, elle est plus simple qu'on le pense. C'est parce qu'il y a toutes sortes de projectiles qui viennent de tous les côtés. Il y a toutes sortes de satellites, toutes sortes de choses là, qui viennent polluer la confiance. Enfin, les fruits heureux de notre adoption, c'est la certitude de notre identité, l'assurance de notre identité. Écoutez bien ce qui nous est dit et ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons reçu, c'est un cadeau, c'est une faveur, nous avons reçu. Ce n'est pas nous qui l'avons gagné, qui nous l'avons mérité, je tiens quand même à le dire. C'est toujours le positionnement de la foi et de la foi et de la foi encore, toujours de la foi. Alors nous avons reçu un esprit d'adoption, avec un grand E, esprit, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous conduit, lorsque nous faisons partie, lorsque nous sommes membres d'une famille, à avoir des droits justes et fondés. Et j'en arrive à ce mot qui est déjà pour nous. Le mot héritier, le mot héritage. Le mot héritier et héritage est cité plus de 150 fois dans la Bible. C'est quand même pas une petite chose. Ce qui nous montre que Dieu nous a pris alors que nous étions dans le néant. Il nous a construit à travers la vie spirituelle, à travers notre existence ici-bas. Et maintenant, il nous prépare un cadeau extraordinaire et magnifique. Les gens qui se bagarrent pour l'héritage de cette terre, c'est terrible et déplorable. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se bagarrent pour avoir l'héritage céleste? Ça, c'est une autre affaire. Hein. Et est-ce que nous croyons à notre héritage céleste? Ouais, il faut y croire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Mais il faudrait peut-être que je revienne un de ces jours avec une prédication sur l'héritage, sur les choses. Voilà. Et là, on va pas se battre chez le notaire. C'est déjà écrit, l'acte. Il y a le testament. Et il y en a eu un premier. Puis Dieu a dit, je vais faire encore mieux. Il en a fait un deuxième. Ça s'appelle le Nouveau Testament. Voilà. Il est pour vous. Il est pour chacun d'entre nous. Et je voudrais vous dire, chacun aura sa part. Vous n'aurez pas regardé, oh l'autre, il a plus que ceci et cela. Non. Non, non. Chacun aura sa part. Ça sera la plénitude. Alors, Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et quel héritage qui nous attend, mes frères et sœurs? Quel héritage? Ouais. Je conclue. Mon père et ma mère m'abandonnent, ou selon la tradition de l'hébreu, ils m'ont laissé là. Ils m'ont laissé là. Mais l'Éternel me recueillera. Je peux aujourd'hui dire, les uns et les autres, je peux dire aujourd'hui, mon Père m'a recueilli. Mon Père m'a recueilli. Il m'a guéri. Il m'a consolé. Je suis à lui et à l'instar, j'ai fait des petites recherches, à l'instar de ce poème chrétien écrit par Ruben Sayans. Vous l'avez certainement chanté un jour ou l'autre. Je vais vous le citer, ce poème. Écoutez bien. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur, s'est fait connaître. Et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs enfuies, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Alors, au cri du silence, succèdent les chants de louange, et je peux dire, et nous pouvons dire ensemble, Abba, Père, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce ce matin. On s'approprie la parole de Dieu, les promesses de Dieu, parce que Dieu ne nous a pas parlé au futur. C'est maintenant, je saisis sa grâce. Oui, il est à moi, je suis à lui. Nous allons prier, et je prie aussi pour chacun d'entre vous. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que je suis devant toi, nous sommes devant toi. Nous nous inclinons, Seigneur, devant ta majesté divine. Seigneur, je ne m'adresse pas à un Dieu perdu dans l'univers, mais je m'adresse à toi, mon Père. Je t'adresse à toi, toi qui m'as aimé, toi qui m'as aimé dans ma misère, toi qui m'as aimé dans ma peine, dans mes errances, dans mon instabilité, dans mes souffrances. Seigneur, toi qui as vu mon cœur en panne, et souvent mon cœur en peine, alors je te demande, et je te demande ta grâce, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, qui ont eu un passé difficile, un passé d'enfant, d'adolescent, de jeune, un passé peut-être de vie. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier, quoi qu'il en soit, pour le Père et la Mère que tu nous as donnés, parce que ta parole ne l'oublie pas. Honore ton Père et ta Mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Et nous voulons croire, Père éternel, que tout le monde n'a peut-être pas eu la chance. En effet, Seigneur, nous n'aurons jamais des parents dans l'idéal. Mais une chose qui est certaine, c'est que même si nous avons eu mal, nous avons fait du mal, que peut-être même nos parents nous ont fait du mal, nous voulons vraiment te demander que tu nous apprennes à pardonner. Alors pardonner, parce que sans le pardon, Seigneur, il ne peut pas y avoir autre chose. Qu'en effet, Seigneur, eh bien, le désert et la stérilité. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, Seigneur, que tu donnes ta grâce à chacun et à chacune. Et qu'aujourd'hui, Père éternel, avec la charge d'expérience, tout ce que nous portons peut être trop lourd, forcément trop lourd pour nous, eh bien, nous voulons le décharger. Ce matin, tu nous as donné, à travers ce message, le moyen de nous décharger, Seigneur, de nos fardeaux. Puisque tu nous as dit que tu prendrais soin de nous. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons croire, Père éternel, que tout ce qui a été cassé, les accidents, les incidents de la vie, il y en a qui sont réparables, mais il y en a d'autres qui resteront en l'état. Et, Seigneur, tu es venu vraiment, Père éternel, pour nous donner de rentrer, nous, dans une autre vie, parce que nous te connaissons. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie de m'avoir donné Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit que tu nous avais gravés dans ses mains. Et dans ses mains, Seigneur, il y a la croix, il y a les clous, il y a le sang. Mais Seigneur, c'est bien à cause de ce sang, Seigneur, que nous pouvons nous approcher de toi, puisqu'il a payé de son sang, eh bien, le prix de notre vie. Alors, Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs, Croyons, Père éternel, que le Saint-Esprit est là pour passer dans les rangs. Et tu nous dis et tu nous rappelles, Seigneur, comme ta parole nous l'a enseigné ce matin, eh bien que, en effet, l'Esprit de Christ nous dit tout simplement que nous sommes des fils et des filles. Que l'Esprit de Christ nous permet d'appeler notre Père céleste, tout simplement, Abba, Abba, Seigneur. Oui, Jésus. Nous voulons simplement te dire que tu es confirme en ce moment, Seigneur, que nous avons, que tu nous as mis à travers, Seigneur, de notre cœur, eh bien, l'esprit d'adoption. Je ne suis plus seul. Maintenant, Seigneur, tu vas nous guérir. Je suis dans la maison de mon Père, je suis chez moi. Et je te demande, Père éternel, d'apaiser toutes les souffrances, de calmer les souffrances. Et tout cela, Seigneur, c'est un travail qui peut être long, un travail de patience. Mais moi, je vais tout simplement devant le temps qui passe, hein. Devant le temps, Seigneur, qui m'épuise, eh bien, je veux dire à chaque fois, je fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je crois en toi, je crois en ta parole. Maintenant, passe dans les cœurs et dans les vies. C'est dans le silence que ça se passe. Pour que, Seigneur, eh bien, tout simplement, eh bien, nous changions, Seigneur, là, eh bien, peut-être notre façon de voir les choses, notre mentalité, nos résistances, des blessures qui s'ouvrent tout à nouveau et qui nous rendent parfois agressifs, qui nous rendent malheureux, malades, Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie de ce que tu m'as encore parlé, de ce que tu m'as donné ta parole. Alors, au cri, Seigneur, du silence, eh bien, Seigneur, tu fais monter dans mon cœur les chants de louange et d'adoration pour mon Père céleste. Il est à moi, je suis à lui. Sécurité profonde. Merci, Seigneur. Tu bénis ton Église. Tu bénis tous ceux et celles, en effet, Père éternel, qui sont là ce matin. Mais tu bénis tous ceux et celles, ou ceux... Message, eh bien, Seigneur, sera porté. Oui, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te le demande de tout mon cœur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle. Et ta fidélité m'apaise, elle me rassure, elle me donne le vrai bonheur. Merci, Jésus. Amen. Amen.